en situation précaire, soit il y ait des solutions pour eux. Donc il y a des personnes qui prennent les devants, c'est une forme de résistance, et cette résistance, elle est punie tout le temps, à chaque fois, et voilà. Et donc il y a des gens de plus en plus frileux à le faire, évidemment, puisqu'ils sont tout le temps dans le côté répressif par rapport à ces personnes-là. On a fait une mobilisation, par exemple, pour le squat rue Charles Domergue, où il y avait une vingtaine de personnes, dont des enfants scolarisés, dont des personnes qui travaillent, etc. On a eu très peu de mobilisation. Ça, c'est aussi un coup de gueule que je voudrais passer. Quand on fait une mobilisation, on souhaite voir plus de personnes à ces mobilisations-là, parce que c'est le nombre et le public qui fait que les personnes en face et ceux qui ont le pouvoir vont bouger et vont changer les choses.
Ce squat-là, rue Charles Domergue, il a été expulsé ?
Il n'est pas encore. D'ailleurs, il y a eu un sabotage d'un petit facho qui passait par là. Lui, il n'aura rien. Par contre, celui qui a ouvert le lieu, il risque des choses. Par contre, celui qui a foutu en l'air l'électricité pour les femmes et les enfants, donc on l'a dénoncé, on est passé au journal Sud-Ouest, etc., pour dénoncer ça. Du coup, ils ont fait un petit effort, puisque ça leur faisait une mauvaise pub. Ils ont mis un groupe électrique le temps de l'expulsion, qui va arriver effectivement au premier. Et donc, on s'organise.
Donc là, ce squat-là risque d'être expulsé.
Ça va être expulsé. Après, on s'organise, nous, en coulisses, pour essayer de trouver des solutions, puisque les solutions des personnes dites de pouvoir ne font rien.
Et de l'État qui a normalement le devoir de loger les personnes. Voilà.
Plus les promesses, hein, zéro pauvreté, on voit bien qu'on soude notre poire, puisque ça fait plusieurs présidents qui proposent ça, il n'y a rien qui est fait. On propose des milliards, effectivement, pour aider l'Ukraine, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais bon, on met des milliards dans des mitraillettes, etc. Mais il n'y en a même pas un pour la pauvreté. Donc voilà, ça, on le voit bien. On peut mettre des moyens sur des différents trucs, et cette promesse qui est faite, et qui est... effectivement, c'est les personnes faibles et qui ne rapportent pas d'argent, soi-disant. Il y a quand même pas mal de gens qui travaillent dans ces gens-là, mais ces personnes-là ne rapportent rien, donc on s'en fout. Mais non, parce que c'est un bien... C'est collectivement, ça fait pas du bien de voir des enfants qui sont virés alors qu'ils sont en pleine année scolaire. C'est un impact, et il va falloir qu'ils le comprennent. Voilà.
Est-ce que vous arrivez à avoir une idée du nombre de personnes là qui vont être remises à la rue à partir du 1er avril, qui vont se retrouver, qui étaient logées, qui vont se retrouver à la rue?
Alors moi, du peu que je connais, je ne pourrais pas dire le chiffre exact. Il y a tellement de personnes qui ne sont pas dans les comptes des gens. Alors nous, on dit apparemment, il y a un chiffre qui sort, 1000 personnes à la rue. Ça, c'est les personnes que je vois. Moi, par exemple, je vois des personnes, je fais des tablés dans la rue. Donc, il y a des personnes, je les vois depuis 7 ans, c'est toujours les mêmes qui sont dans la rue. Des élèves de longue date, à qui on va dire, traverse la rue pour trouver du travail. Mais non, il va falloir leur expliquer à ces gens-là aussi que se remettre dans le monde du travail, etc., c'est un long processus. C'est pas en traversant la rue qu'on va s'y remettre. C'est un long processus pour se remettre mentalement, moralement pour le monde du travail. Comme là, on met la pression à des personnes qui ont eu leur RSA en disant vous avez travaillé 15 heures par semaine, mais ces personnes-là sont décrochées, on se fout d'eux depuis 15 ans, 20 ans, et on leur dit tu vas faire 15 heures par-ci, 15 heures par-là, mais non, parce que c'est tout un processus de pour se réhabiliter, pour se remettre bien, ça marche pas comme ça. Il va falloir leur dire, c'est pas par la répression qu'on peut vaincre la pauvreté. En aucun cas, ça ne marchera de cette manière-là.
L'action donc, qui a lieu demain à 12h30, place Péberlan, donc à l'initiative de Médecins du Monde, elle s'appelle « La rue nuit gravement à la santé ».
Tout à fait.
Cette question-là de la santé, peut-être tu peux en dire deux mots, et de comment la rue, tu le disais, vivre entre 0 et 5 degrés tout un hiver, en fait, ça a atteint.
Oui, bien sûr.
C'est quoi cette nuisance et cet impact de la rue sur la santé des gens?
C'est simple, on se nourrit mal, on n'est pas forcément bien si on n'a pas la force, on a froid là toute la nuit, il y a un manque d'aide de psychologique, même s'il y a des petites choses qui se font. C'est le travail des petites associations dont on parle pas, parce qu'on parle beaucoup de banque alimentaire ou Resto du Cœur. En fait, il y a plein de petites assos comme les Maraudes du Cœur, j'en cite quelques-unes comme ça à la volée, hein. Les Maraudes du Cœur, on a les gratuits, on a la piraterie, il y en a plusieurs, hein, j'en oublie, excusez-moi les copains. Et donc c'est un constat, oui, psychologiquement, ça ne peut pas aller. Il y a des personnes seules, isolées, des femmes seules aussi, isolées, qui se retrouvent du coup confrontées au monde dur de la rue. Il y a des enfants qui sont dans la rue. Il va falloir en prendre conscience, on le cache. C'est un peu comme cette histoire de SDF qui sont expulsés des JO par bus entier vers la province, parce qu'on ne faut pas qu'on voit cette misère. Donc ça doit être dénoncé. Et qui va de s'en préoccuper? C'est les petites assos qui sont à la rue, qui vont devoir absorber, et on n'aide pas ces petites assos, pas assez, on ne les reconnaît pas assez. Et voilà, donc je suis aussi pour la voix de ces gens, ces personnes-là. Donc oui, la rue nuit gravement à la santé, il faut y être, il y a besoin de mobilisation, il y a besoin que les personnes soient là. C'est une petite action pacifique et qui ne dure pas très longtemps, qui ne prend pas beaucoup de votre temps, mais il y a besoin que ce soit supporté en cette fin de trêve hivernale.
Très bien, merci beaucoup Rachid. Merci. Donc le rendez-vous, on le redit, c'est demain, mercredi à 12h30.
27 mars à partir de 12h30, place Péberlan.
Place Péberlan. Merci beaucoup Rachid. Donc
merci,
je rappelle que toi tu es membre de président de l'association La Piraterie.
Tout à fait.
Merci beaucoup à toi.
Merci à vous.
Et 12h15 sur la clé des ondes, on va enchaîner. Alors on a un programme un petit peu perturbé par rapport à d'autres mardis. On va enchaîner tout de suite avec la chronique écho, les clés de l'écho.
Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative. Ça passe pas bien ça, cette idée-là.
Cette semaine, dans Les Clés de l'écho, on est avec Félix Garnier. Salut Félix.
Salut Baptiste.
Je rappelle que tu es doctorant en économie écologique à l'Université de Bordeaux.
Tout à fait. Et
vas-y, à toi la parole.
Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu différent. Une chose dont on n'a pas eu l'occasion de parler récemment, mais on va parler d'économie en ruralité, et notamment d'économie industrielle et extractive en ruralité. Chers auditeurs et auditrices de La Clé des Ondes, j'espère que vous allez bien. Comme je le disais, je suis assez enthousiaste pour l'épisode d'aujourd'hui parce que je vais vous emmener chez moi, en Auvergne, dans le petit village d'Échassières. Alors Échassières, c'est un peu moins de 400 âmes logées dans la forêt à la frontière entre le Puy-de-Dôme et l'Allier. C'est un village typique de ce coin de la France, hérité de la tradition minière du Massif central. On y a extrait du tungstène jusque dans les années 60 et on y extrait toujours du kaolin, un minerai qui est utilisé en céramique. Malgré cette tranquillité apparente, Échassières se retrouve dans une situation originale pour un village français. Depuis quelque temps, on y discute en effet d'ouvrir une nouvelle mine. Et pas n'importe quel type de mine. Une mine de lithium, ce minerai rare, nécessaire à la confection des batteries, qui pourrait devenir l'une des plus grandes d'Europe. La société Imerys, qui exploite déjà la mine de kaolin, est à l'initiative de ce projet. Divisée sur trois sites, Échassières pour la production, Saint-Bonnet-de-Rochefort pour le stockage et Montluçon pour la transformation, il représenterait 1 milliard d'euros d'investissement et la création de 500 à 1000 nouveaux emplois. Une aubaine pour ce territoire durement frappé par la désindustrialisation. D'après l'entreprise, il serait possible d'atteindre une capacité d'extraction de 34 000 tonnes par an, ce qui serait suffisant pour fournir assez de minerais pour environ 700 000 nouveaux véhicules. Imerys a déjà pris les devants pour tenter de calmer les inquiétudes des locaux quant au coût environnemental de la future mine. D'après Alan Part, le vice-président du groupe en charge des projets lithium, la mine d'Échassières sera l'une des plus propres au monde. Suivant les dernières régulations à la pointe de la technologie, les 1,2 million de mètres cubes d'eau nécessaires au fonctionnement de la mine chaque année seront puisés dans la Sioule, une rivière locale, plutôt que dans les nappes phréatiques, et 90% de cette eau devrait être traitée et remise en circulation. Toutefois, l'absence de publication d'études environnementales et le souvenir encore vivace parmi la population des sols et de l'eau, de la pollution des sols et de l'eau par l'ancienne mine de tungstène génèrent du doute et une opposition au projet. Qu'est-ce qu'on en pense donc ? Qu'est-ce qu'on peut en penser ? C'est une question à laquelle il est bien difficile de répondre parce que, en filigrane, il y a plusieurs questions importantes qui sont soulevées. À quel point est-ce qu'il est nécessaire d'ouvrir une telle mine ? Étant donné que le lithium est surtout concentré dans le monde majoritaire, les pays du sud global, mais que ce sont les occidentaux qui en consomment le plus pour leurs véhicules, n'est-il pas juste que cette mine ouvre en Europe plutôt que dans les terres indigènes du nord de l'Argentine, par exemple ? Pour tenter d'y répondre, regardons d'un peu plus près les prévisions d'utilisation de ce minerai. D'après Imerys, leur production servirait à alimenter les batteries de 700 000 véhicules par an. Ça fait environ 48 kg de lithium par batterie. Une batterie de vélo électrique, il y a 300 g de lithium dedans. Une batterie de Tesla, c'est 80 kg de lithium. Et un bus électrique, c'est environ 200 kg de lithium. Donc pour 3 Tesla, on a un bus. On parle là que du lithium. C'est, parmi les terres rares, l'un de ceux qui est le moins utilisé dans les batteries. Au fond, qu'est-ce que ça représente, la mine d'Échassières ? Personnellement, et ça va peut-être en surprendre quelques-uns, je suis plutôt en faveur de l'ouverture de cette mine. L'électrification des mobilités requiert une quantité importante de minerais. Et je pense qu'il est plus juste, à plusieurs points de vue, d'ouvrir une mine en Europe pour répondre aux besoins européens, plutôt que de poursuivre les schémas d'exploitation et de pillage du monde majoritaire. Ceci étant dit, la vraie question qui est posée, c'est celle des modes de transport. L'électrification, elle n'est réellement écologique que si elle est accompagnée par des changements effectifs dans les modes de transport, c'est-à-dire moins de déplacements, des déplacements moins longs, en transport en commun ou en vélo plutôt qu'en voiture, et par un changement dans les mentalités qui entourent la voiture. Plus une voiture est grosse, et plus une voiture est lourde, et plus sa batterie aura besoin d'une quantité importante de métaux. Dans une logique de gestion durable de ces minerais, le premier effort ne doit pas porter sur l'extraction, mais bien sur les changements de mentalité, à la fois chez les consommateurs et chez les industriels de l'automobile. Qu'on se le dise, le véhicule du futur, il est petit, il est léger et il est électrique. Et idéalement, il ne sera pas non plus un véhicule individuel dans la majorité des cas, même s'il y a évidemment des situations où ça garde son intérêt, comme pour les artisans ou les habitants de zones rurales qui ne peuvent pas être desservis par les transports en commun. Comment conclure ? Peut-être sur ces mots qui me semblent bien résumer l'idée. Une société qui minimise son impact sur l'environnement, ce n'est pas une société qui s'empêche de vivre. En revanche, elle a l'obligation d'adapter ses usages à sa manière, ses usages de manière à viser la modération et l'économie dans son utilisation des ressources, qu'on appelle la sobriété. Aussi, le débat, c'est pas tant être pour ou contre la mine de manière absolue, c'est pas blanc ou noir, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire de ce minerai et est-ce que la manière dont on va l'utiliser est la meilleure possible.
Merci beaucoup Félix pour cette chronique et toutes ces questions que tu poses qui font écho d'ailleurs à une précédente émission autour de la question des voitures électriques légères et low cost sur lesquelles la CGT se bat aussi pour qu'il y ait ces productions-là localement. Merci beaucoup Félix et il paraît que c'est ton anniversaire, alors la Clé des Andes te souhaite un très joyeux anniversaire aujourd'hui.
Merci à tous.
Et à 12h20 sur la Clé des Andes, on va maintenant écouter l'agenda culturel de Bordeaux Nord qui nous est proposé comme chaque semaine par Jennifer de Bordeaux Nord.
Bonjour aux auditeurs de la Clé des Andes. Le collectif Bordeaux Nord vous informe de l'actualité culturelle de cette semaine sur les quartiers nord de Bordeaux. Commençons avec un appel à participation lancé par l'association On Verra Bien, située au Grand Parc. Si vous souhaitez vous initier à une pratique musicale en groupe et gratuitement, contactez-les. Plus d'infos sur notre site internet. La bibliothèque du Grand Parc vous propose de découvrir la période picturale du fauvisme à travers une conférence grand public de Nicolas Bulf. Rendez-vous le mardi 26 mars à 14h30. La Maison du Jardinier, au Parc Rivière, organise gratuitement un atelier d'origami de fleurs, mercredi 27 mars à 14h. Les archives départementales de la Gironde proposent une rencontre au format hybride, organisée en lien avec l'exposition « Ville en Gironde au Moyen-Âge » et dans le cadre des Nocturnes de l'Histoire. Elle réunira historiens de l'université Bordeaux-Montaigne et concepteurs du jeu vidéo A Plague Tale Innocence. Rendez-vous mercredi 27 mars à 18h. L'association Les Petits Tréteaux organise tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h30 des ateliers de théâtre gratuits ouverts à toutes et tous. Rendez-vous jeudi 28 mars au Centre social du Grand Parc. La bibliothèque de Bordeaux-Lac propose diverses animations, un cours de peinture le vendredi 29 mars à 14h, un cours d'échecs et une initiation au Mahjong le samedi 30 mars à 14h. Le Pont Tournant vous invite à venir écouter un concert de musique jazz avec Sting Variations vendredi 29 mars à 20h30. La salle des fêtes du Grand Parc accueille l'artiste de dancehall Blaise Faya vendredi 29 mars à 20h. Le Théâtre du Cerisier reçoit la compagnie Romanoji avec son spectacle de danse Herzégovine, le voyage intérieur, dans le cadre des rencontres Livre en bouche, samedi 30 mars à 19h30. Et pour finir, jusqu'au 6 avril, venez visiter la galerie Tinbox Mobile, qui a pris place sur le quartier du Grand Parc, à côté du Petit Parc. Vous pourrez y découvrir le travail de Marina Chastenet et Marianne Petzer, la République des océans et des mers. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur bordeauxnord.org.
À bientôt Jennifer et merci beaucoup pour cet agenda. 12h23 sur la Clé des Ondes, c'est le plat de résistance jusqu'à 13h. On va s'intéresser à la bourse du travail. On aura, si tout va bien, au téléphone Delphine Jamet, qui est adjointe au maire de Bordeaux, chargée de l'administration générale et notamment des bâtiments. Et puis, on est déjà, d'ores et déjà, avec Stéphane Aubé. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Tu es secrétaire général de l'Union départementale CGT de Gironde. Avant de parler de la bourse du travail, un petit mot, parce que c'est aujourd'hui une journée de mobilisation des retraités. Il y avait une manifestation ce matin à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les raisons de cette mobilisation et ce que demandent les retraités ?
Ah ben c'est une manifestation qui est en écho avec la manifestation du 19, hein, à savoir une demande de réévaluer les pensions de retraite afin qu'elles puissent permettre aux retraités de vivre dignement, parce qu'il faut savoir que depuis maintenant bien des années, les pensions de retraite n'ont pas suivi l'évolution et l'augmentation du coût de la vie. Et donc, de fait, malgré les quelques pourcentages et points d'évolution des pensions de retraite, aujourd'hui, les retraités ne sont plus en capacité de vivre dignement de leur retraite. Et donc, c'était l'objet, et c'est l'objet de la manifestation d'aujourd'hui, avec une demande de revalorisation de 10% des pensions de retraite.
Très bien, merci Stéphane. Alors, je lisais, on s'intéresse aujourd'hui, ce midi, à la Bourse du Travail de Bordeaux, située cours Aristide Briand, construite par la mairie de Bordeaux à partir de 1934. Elle a été inaugurée en 1938. Ce bâtiment, il symbolise jusqu'à aujourd'hui l'histoire ouvrière et syndicale, au lieu de la culture ouvrière. C'est ce que tu disais, Stéphane, dans les colonnes de Sud-Ouest la semaine dernière. C'est aussi un bâtiment à l'architecture remarquable, classé au monument historique depuis 1998, en particulier en raison des peintures et sculptures art déco qui s'y trouvent. Mais aujourd'hui, la Bourse du Travail, elle est menacée par des dégradations importantes qui ont rendu de nombreux espaces inutilisables et aussi par l'étiolement des activités qui ont pu s'y dérouler. L'Union départementale de la CGT, qui occupe le bâtiment, tire depuis quelques semaines la sonnette d'alarme. Et la semaine dernière, elle organisait une visite des lieux pour la presse. Myriam Roch-Massarin s'y est rendue pour La Clé des Ondes. On va écouter son reportage avec les interventions donc de Stéphane Aubé, de Corinne Versini, qui était sa prédécesseure au poste de secrétaire général de l'Union départementale CGT, et puis Jean Dartigues, qui a lui été secrétaire entre 76 et 85. On écoute donc, c'était jeudi dernier à la Bourse du Travail de Bordeaux.
Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études architecturales pour en voyant les choses qui s'effondrent, pour comprendre qu'il est en péril. Il faut le sauver, ce bâtiment. Et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est pour ça qu'il faut le sauver. On a monté un comité de sauvegarde. Et quand on dit que la Bourse du Travail est en danger, c'est qu'il est en danger physiquement, quoi.
Et dès qu'il pleuvait, on avait des infiltrations. Ça coulait déjà sur les côtés où l'eau s'était accumulée. Et on a eu de nouveau un effondrement. C'était octobre-novembre. C'était lors des dernières pluies, quoi, les fortes pluies qu'on a eues fin d'année. Cet automne, on a du coup de nouveau une partie du plafond qui s'est effondrée. Oui, c'est ça. C'est une stuc. Le quatrième étage qu'on va vous faire visiter qui est plus étanche. Hein. Donc on a des infiltrations qui font qu'on a des effondrements du plafond. Et donc c'est problématique aussi d'amiante qu'il faut régler.
Les éboulements qu'il y a eu, ça c'était pendant les tempêtes de...
Ça en continu. Non, ça c'est... Ah. c'est ça remonte à au moins 3 ans, quoi, 3-4 ans qu'on a fermé cette salle. Donc cours d'alerte, qu'on demande à ce qu'il y ait des choses qui soient faites.
On est dans tous ces gâchis, utiliser tous ces espaces.
Ah. Donc ça c'est une ancienne bibliothèque qui portait une volonté sociale et syndicale extrêmement forte de pouvoir donner accès au savoir des travailleurs et travailleuses, quoi.
Oui, donc là, il y a des travaux qui ont déjà commencé et, ici.
Là, il y a une mise à nu qui a été faite pour enlever tout ce qui était dégradé, etc. Donc il y a eu des travaux.
C'était fait quand, ces travaux?
Ça, c'était pareil, c'était 2009.
Ça s'est arrêté.
Pourquoi ça s'est arrêté?
On a rarement de réponse. Souvent, c'est toujours la question de l'argent qui est mis en avant, la difficulté de trouver, d'articuler choix budgétaire et technique. Donc nous, ce qu'on mesure, on ne comprend pas, c'est cette inertie à la fois administrative et financière sur ce sujet-là, quoi. Un coup, c'est non, on a voté des budgets, mais on n'a pas les intervenants. Un coup, on pourrait avoir les intervenants, mais on n'a pas les budgets. Donc bon. 2009, cette terrasse avait été en fait, il faut tout refaire. Hein. Parce que l'entretien n'a pas été régulier, n'a pas été constant.
Et donc principalement dû au puits.
Au puits et à la conception de la rénovation, quoi. Qui fait que. Regardez, vous avez du coup les plafonds également là, qui commencent à tomber, attention.
La salle des congrès, c'est ça?
La salle des congrès qui a vu... Qui a...
Alors là, il y avait des photos noires et blancs sur tous les murs qui représentaient les métiers à l'époque, qui étaient très actifs dans la région. Et ces photos ont été enlevées parce que, bien sûr, avec l'humidité, c'est pas possible de les laisser là. Elles ont été entreposées. Voilà, on voudrait refaire cette salle pour remettre ces photos qui sont superbes, hein, et uniques d'ailleurs.
Alors, nous, on n'a pas vécu ça, on n'a pas vécu. Mais d'ailleurs, on voudrait. Nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait régulièrement des moments démocratiques de débat à la CGT pour savoir quelles sont nos priorités syndicales à un moment donné. Quoi. Concrètement, les congrès, on voudrait nos congrès, le congrès des syndicats CGT de la Gironde, On voudrait pouvoir les refaire ici. Mais on est obligé de louer des salles, avec tout ce que ça comporte de frais, d'administratif, d'organisation. Alors qu'on est, on a un lieu, on a l'espace pour le faire. Quoi. Dédié. C'est ça qu'on demande à soutenir.
À la disposition de la... Voilà.
Voilà. Et quand on parle de, pourrait croiser des objectifs culturels ouverts à tous, évidemment, on cible les acteurs institutionnels, notamment la mairie, qui semble intéressée. C'est pas nous qui l'avons écrit dans le programme de M. Urmic, cette ambition de vouloir travailler à la réhabilitation de la Bourse du Travail. Il a inscrit dans son programme. Donc une partie des électeurs peut-être l'ont élu pour sur ce point-là. En tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est que oui, on est partie prenante pour faire que, un, celui-là reste à la gestion et à l'affectation unique de la CGT, qui veut ouvrir ce lieu au monde culturel artistique et pour en faire bénéficier le plus grand nombre.
Une fois, c'était les Beaux-Arts qui nous avaient contactés. Ils avaient organisé un examen ou un concours pour entrer aux Beaux-Arts et le thème, c'était l'engagement. L'engagement dans la vie, c'est quoi pour vous l'engagement? Voilà, ils s'étaient mis là. On a eu des pépinières d'artistes qui sont venus. On a eu des performances diverses et variées. On pourrait ressortir tous les documents de l'époque. On a eu une pépinière d'artistes qui c'est des jeunes artistes qui se sont installés, à qui on allait donner le lieu, hein. Ils se sont installés pendant un mois ici, ils ont créé, ils ont fait connaître leur création, après il y a eu des débats, enfin voilà. Ça a été un vrai lieu de vie, là, dès l'instant où les travaux ont commencé et qu'on n'avait pas la salle Ambroise Croizat dans l'état qu'elle est, que ce lieu commençait à reprendre un peu vie, nous, on lui a donné cette dimension culturelle, quoi.
Ils sont où les points de blocage vraiment avec la mairie?
On essaye de les identifier. C'est, pour le moment, ce qu'on a identifié, c'est la question budgétaire qui pose un problème. Donc, c'est pour ça qu'on est à l'origine d'inviter tout un tas de financeurs, à savoir l'ADRA, l'État, la DRAC, le conseil départemental, la métropole, donc la mairie évidemment en tant que propriétaire, le conseil régional, parce que pour nous, c'est le point bloquant. Et on espère. Avoir identifié le seul point bloquant. Okay. On espère qu'on n'a pas, qu'il n'y a pas d'intention cachée concernant la Bourse du Travail, qui expliquerait, mais que c'est pas dit.
Faudrait
que nous le disent. Qu'est-ce qui bloque? Parce que nous, on est dans une démarche de trouver des financiers, des financeurs intéressés, la DRAC notamment, qui nous a, quand on les a réunis tous ensemble le 19 décembre dernier, nous a dit oui, le lieu, le projet était extrêmement intéressant pour la DRAC. Et donc, il n'y a plus qu'à. C'est la CGT qui a fait qu'aujourd'hui elle soit toujours là, la Bourse du Travail, qu'elle n'ait pas été démolie déjà, parce qu'à l'époque notamment de Jean, elle a été déclarée monument historique, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une ambition aussi, à un moment donné, à vouloir démolir la Bourse du Travail pour en faire autre chose. Hein. De plus en plus, ce qui se passe dans d'autres villes, c'est notamment des offensives sur les locaux donnés à la CGT, notamment dans des villes départementales, et on les on embête énormément, pour le dire comme ça, il y a des offensives en tout cas très très fortes contre notamment les locaux. Alors c'est une offensive générale qu'on subit, c'est les moyens de droit, le droit syndical qui est à chaque fois attaqué, mais également la question des locaux, les moyens, pour nous ça en fait partie. C'est notre ADN, nous à la CGT.
La dernière lettre que nous a adressée le DIRCAB de la mairie, il dit ici...
C'est hier, la date de hier.
Tu lis ?
Ouais. Donc c'est donc bon, il me semble important de respecter ce protocole d'échange pour avancer dans les nombreuses démarches nécessaires à la réalisation des travaux envisagés et travailler sur les orientations futures de l'occupation de la Bourse du Travail.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Qu'est-ce que ça veut dire ?
On ne sait pas.
Nous, on a toujours, et ça a toujours été, ça a été confirmé par des jugements à Bordeaux, l'affectataire exclusif de la Bourse du Travail, c'est la CGT, et ça doit rester la CGT. Voilà. Et donc, s'il y avait des intentions cachées, non dites, La moindre des choses, c'est qu'on nous le dise. Parce que nous, effectivement, on a des annonces. Alors, via des articles de presse, via des échanges informels, oui, c'est en cours, oui. Mais sauf que nous, ce qu'on demande, c'est au-delà d'avoir des annonces, on est à une vision, à savoir quelles sommes sont engagées, qu'est-ce qu'elles vont recouvrir en termes de travaux, et sur quel délai.
Voilà, un plan pluriannuel.
Voilà, et aujourd'hui, donc, on a cette... ces annonces qui ont été faites notamment le 19 décembre, à savoir une toiture temporaire pour éviter que le toit continue, voilà. Un des désavantages de la salle Ambroise Rosa, dont on a eu l'information du coup dans le sud-ouest, et une rénovation du hall. Qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça? Nous, on demande à pouvoir le mesurer, à pouvoir agir, et notamment interpeller ceux qui peuvent le financer, co-financer. Et après, il y a la suite, parce qu'une fois que tout ça sera fait, avec les chances qu'on espère la plus courte possible, qu'on est prêt à entendre, il y a des impératifs administratifs, techniques, etc. C'est que, et la suite? Et la suite? Parce que tout ça, ça ne suffira pas à faire que... Enfin, nous, on voudrait que ça suffise, mais quid de ce qui sortira après le désavantage de la salle Ambroise Croizat? Est-ce qu'on peut la rouvrir au public ou pas? Nous, on voudrait savoir. On voudrait avoir l'information technique.
On est tenace, nous. Hein. Tenace, pugnace, tout ce que l'on veut, on ne lâchera pas. Donc là, on a été sur des démarches, on va dire, on a essayé d'avoir de l'écoute, des rencontres, c'est toujours très compliqué, on s'en rend compte. Donc après, ben, on passera au niveau supérieur, c'est-à-dire ce qui s'appelle la mobilisation, mais des mobilisations très actives. Hein. On ne s'interdit pas d'intervenir dans un conseil municipal. On ne s'interdit pas d'avoir différentes initiatives, notamment avec les artistes. Avec les artistes, on ne s'interdit rien aujourd'hui. Bien au contraire, on a un tas de projets dans la tête, d'initiatives revendicatives, qui forcément va faire du bruit. Surtout qu'on a des... Alors, certes, on a la CGT, toute la CGT du département qui soutient avec nous, mais on n'a pas que la CGT. On a réussi à créer un collectif qui est pas forcément, qui sont pas forcément des personnalités de la CGT. Mais quand je prends les artistes, la liste que vous avez, les différents artistes, il y a plein de gens qui sont attachés à cette bourse. Donc on ne s'interdit pas des initiatives avec tout ce monde-là. Jusqu'à maintenant, on a essayé de privilégier le dialogue. Visiblement, le dialogue, on n'arrive pas à l'avoir. Nous, ce qu'on voulait, c'est une rencontre avec le maire de Bordeaux. On n'arrive pas à rencontrer le maire de Bordeaux. Je ne comprends pas que le bureau de l'Union départementale, avec son secrétaire général, ne puisse pas rencontrer et partager avec le maire de Bordeaux sur nos intentions, sur cette bourse. On ne va pas le dévorer. Hein. On est des gens très corrects, vous savez. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Voilà, qu'on se pose autour d'une table. Et vu que le dialogue est impossible avec la mairie de Bordeaux, mais tant pis, hein, tant pis. On passera aux actions revendicatives pure jus CGT. Et on sait qu'on est soutenu par des personnalités qui ne sont pas forcément à la CGT.
Voilà, et on terminait avec les paroles de Corinne Versini, ancienne secrétaire générale de Lyon départemental à la CGT de la Gironde. Merci beaucoup Myriam pour ce reportage. Une précision sur les bruits de plastique au début. Il y a de l'amiante dans la salle Ambroise Croizat et donc c'est pour ça que vous avez, pour la visite, dû sortir des masques pour limiter les risques de respirer de l'amiante. On espère être avec Delphine Jamais tout à l'heure, représentante de la mairie, adjointe au maire. Stéphane Aubé, pour commencer, donc secrétaire général de l'Union départementale CGT de Gironde. On entend dans le reportage qu'il est question du hall, de la bourse, de la salle Ambroise Croizat, de la bibliothèque et de la salle de spectacle qui, elles, se trouvent tout en haut du bâtiment et qui sont toutes aujourd'hui inaccessibles, inutilisables. Est-ce que c'est pour ces quatre lieux-là que vous demandez des restaurations? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ou est-ce que, en gros, c'est ça la demande aujourd'hui en termes de travaux, de restauration, Stéphane Aubé?
Nous, notre demande est située d'abord sur une ambition politique, à savoir que cette Bourse du Travail redevienne un lieu d'émancipation, de culture et de moments de partage artistique. Et pour ce faire, la Bourse du Travail est un lieu magnifique, chargé d'histoire, un bijou art déco extrêmement rare. Je crois qu'il en reste deux à Bordeaux de cette envergure. Il y a le parc Lescure et il y a la Bourse du Travail.
Et puis c'est un espace formidable, enfin, en plein centre-ville, d'avoir tout cet espace-là, c'est...
C'était à l'époque la plus grande salle de spectacle dans Bordeaux, puisque la salle de spectacle qui s'appelle la salle Ambroise Croizat contenait 1200 places, et c'est toujours le cas. Et donc c'est sur ça qu'on essaye d'alerter. Aujourd'hui, on a une salle de spectacle qui est fermée, suite à des dégradations par manque d'entretien.
Et à la présence d'amiante.
Et avec une présence d'amiante dans les matériaux, c'était le matériau de construction de l'époque. Donc effectivement, comme on a eu des dégradations, des plafonds qui sont tombés, le matériel qui se dégrade, ben de fait, on a une grosse suspicion d'amiante. Et pour cette raison-là, la salle est fermée, ce qui est un vrai gâchis pour les Bordelais, les Girondins. Mais il n'y a pas que la salle Ambroise Croizat, la Bourse du Travail. Il y a également une salle des congrès qui a vu toute l'histoire sociale et syndicale bordelaise et girondine dans ces lieux vivre, se décider, se dessiner. Également une grande salle, une ancienne bibliothèque, hein, également immense, également un hall, un patio, donc des espaces formidables pour pouvoir accueillir le public et y partager des moments d'éducation populaire, culturelle, artistique, tout ce qui l'intelligence, la volonté collective permettra d'organiser, comme ça a été le cas en temps où il y avait des spectacles, des pièces de théâtre, du cinéma. Il faut savoir qu'il y a aussi une ancienne salle de cinéma avec
une cabine de projection,
des anciens matériaux également classé de projection de cinéma. Non, c'est vraiment un magnifique lieu qui porte une histoire et une mémoire qu'il faut absolument connaître, découvrir, mais surtout réhabiliter.
On va revenir sur ces multiples usages possibles pour en rester sur la question des travaux. Vous aviez donc une réunion hier avec des représentants de la mairie, du département, de l'État, avec la DRAC. Qu'est-ce qui en est ressorti ? Il y a des notes positives un petit peu ?
Alors c'était de nouveau une réunion à l'initiative de la CGT, parce que comme ça l'a toujours été, parce que la Bourse du Travail est associée dès l'origine, c'était le 1er mai 1938 que les clés de la Bourse du Travail ont été remises à la CGT, et depuis lors nous sommes affectataires uniques, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait que l'union départementale CGT dans la bourse, hein. Il y a tout un tas de syndicats qui est de la CGT, que ce soit les syndicats de la santé, du commerce, la métallurgie, les postiers, la papeterie, également toutes les formations qu'on peut faire, plus de 40 par an, qui bénéficient à nos 14 000 adhérents en Gironde. Ça, c'est la partie... c'est ce qu'on appelle la maison des syndicats. Voilà. Donc, il faut savoir que la Bourse du Travail est divisée en deux, maison des syndicats et maison des congrès, avec toutes les salles dont on a parlé tout à l'heure. Et notre priorité aujourd'hui, la réunion qu'on a eue hier, effectivement, à l'initiative de la CGT, c'est pouvoir avoir une visibilité des travaux et des engagements de la mairie, parce qu'on n'avait que des annonces et on n'avait pas de plan, de calendrier, et avec les travaux qui seraient engagés et les délais dans lesquels il serait réalisé. Donc la première des choses qu'on a eu, c'est donc un engagement à nous livrer ce calendrier de travaux qui reste encore à affiner, hein, parce qu'il y a encore des études à faire, ce qu'on veut bien comprendre. Nous, ce qu'on voulait, et ce qu'on a aussi entendu, et c'est une bonne nouvelle, c'est que de nouveau, la bourse du travail serait une priorité pour la mairie, qui est en charge, puisqu'elle est propriétaire, de faire que la réhabilitation de la bourse du travail soit inscrite dans son agenda.
Donc ça, c'est quand même un engagement fort de la part de la mairie. On attend bien sûr de voir la suite, mais c'est un signe fort.
C'est une avancée au vu des dernières décisions qu'on pouvait avoir, parce qu'il y avait un gros flou sur l'intention à rester ou pas sur ce qu'on vit depuis maintenant plus de 10 ans, une maintenance à minima. Aucun travaux de réhabilitation. En réalité, quelques travaux qui peuvent s'apparenter à des rustines, ce qui a fait qu'on s'est retrouvé, malgré les alertes, à plusieurs reprises, à voir de nouveau le plafond du hall qui s'effondre lors des dernières pluies de fin d'année 2023.
Ouais. Alors, quant aux usages, tu l'as dit, il y a deux aspects dans cette bourse, la maison des syndicats, la maison des congrès. Sur la partie plus syndicale, on a pu avoir l'impression depuis pas mal d'années qu'il y avait quand même un grand vide et que les potentialités de cette bourse n'étaient pas utilisées à 100% sur des informations pour les travailleuses, sur des questions de permanence, d'accueil des salariés. Est-ce que ça fait partie aussi de votre projet d'avoir à nouveau cette possibilité-là d'accueil pour les travailleurs, les travailleuses ?
Alors, je pense que c'est une vision extrêmement faussée qui ne correspond pas à la réalité. La maison des syndicats, mis à part au moment du Covid et du confinement, alors là, effectivement, on était tous confinés et quand il y a eu le moment de déconfinement, il y a peut-être eu une moindre vie, puisque les formations syndicales qu'on avait déjà planifiées, on n'a pas pu les tenir, hein, faute de restrictions sanitaires. Mais ça, c'est révolu. Cette partie des syndicats, elle a quasiment un taux d'occupation de 100%. Tous les étages, tous les bureaux sont occupés. On commence même à devoir pousser les murs, puisque il faut voir que la maison des syndicats, la Bourse du Travail, elle a pour vocation à abriter les syndicats CGT de la Gironde, notamment ceux qui n'ont pas une capacité à avoir des locaux dans l'entreprise. Et on sait bien qu'arriver à implanter un syndicat dans l'entreprise, c'est extrêmement compliqué. Également, nous, ce qu'on veut et ce qu'on essaye de travailler en interne depuis maintenant bien longtemps, c'est que un outil essentiel pour pouvoir fonctionner syndicalement, c'est d'avoir un lieu pour pouvoir travailler, des bureaux, mais également des salles de réunion pour pouvoir se réunir, débattre, décider et également se former. Ce que je disais tout à l'heure, la formation syndicale, c'est extrêmement important, c'est une des grosses activités de la Bourse du Travail et on reçoit plus d'une quarantaine de formations par an. Et dans les salles de formation, et également les salles de réunion sont souvent pleines, et on a de cesse de refuser, souvent, faute de place, et faute d'un agenda, d'un calendrier d'occupation des salles occupées.
Donc c'est c'est des salles de formation, il y a les bureaux de l'Union départementale, et après voilà. Il y a des bureaux pour des syndicats, c'est ça, qui sont occupés aussi.
Ah oui, qui sont occupés à 100%, et notamment on a une ambition aussi syndicale extrêmement forte, c'est nous, la CGT, on doit s'adapter aussi à la structure, à l'explosion du monde du travail, et on sait bien que dans les entreprises, notamment les petites, les moins de 11 salariés, les moins de 50, c'est vraiment compliqué d'organiser un syndicat, d'implanter un syndicat, notamment CGT, dans une entreprise. parce qu'il y a tout un tas de freins à cela. On va pas en faire un sujet, mais c'est quand même, en tout cas, un élément important qui fait que la Bourse du Travail doit redevenir ce lieu qui abrite les syndicats qui ne sont pas en capacité de s'implanter dans les boîtes. Un exemple, on a été la Bourse du Travail, l'Union départementale, on a été la première union départementale à organiser les livreurs à vélo. Et ils ont eu, on a partagé un bureau pour pouvoir les abriter. Le premier syndicat de France des livreurs à vélo avait partagé un bureau à la Bourse du Travail dans la partie maison des syndicats. Et parce qu'ils n'avaient pas de, ils ne pouvaient pas avoir de locaux dans le siège des libéraux, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs. Et nous, on est dans ce travail-là, à savoir que les syndicats, les salariés qui veulent s'organiser syndicalement avec la CGT, ont toute leur place pour pouvoir avoir un bureau, partager un bureau maintenant, parce que les bureaux, maintenant, on commence plus à les partager qu'à les distribuer, pour pouvoir réaliser l'activité quotidienne d'un syndicat.
Alors, je crois que nous avons été rejoints au téléphone par Delphine Jamet. C'est bien ça ? Vous êtes bien au bout du fil ?
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle donc que vous êtes adjointe au maire de Bordeaux, chargée de l'administration générale, de l'évaluation des politiques publiques et de la stratégie de la donnée. Merci beaucoup de prendre un moment pour participer à cette discussion. On revient un moment sur la question quand même du site donc de cette Bourse du Travail et des travaux qui restent à faire. On parlait avec Stéphane Aubé des lieux, des pièces qui demandent travaux et de la réunion qu'il y avait hier entre la CGT et la mairie, lors de laquelle il y a eu un engagement de la mairie, en tout cas un discours qui montrait le fait de ramener cette question dans les priorités de la mairie. Vous rejoignez, vous confirmez cela, Delphine Jamet, et avec à la fois donc, ce qui nous a été dit par Stéphane Aubé, c'est un calendrier de l'échelonnement des travaux qui allait pouvoir être communiqué quand il serait à fait, et cette question de la priorisation des travaux à la Bourse du Travail, Delphine Jamet.
Oui, en tout cas, sur la mise en sécurité de la Bourse du Travail, très clairement, tout ça est planifié. Hein, donc, les services sont en ordre de marche et lancent les marchés afférents. On sait que c'est complexe, c'est long et on en est les premiers désolés, mais c'est la loi de l'administration et des marchés publics qui le veut. Donc, en tout cas, bien entendu, il va y avoir un parapluie qui va être posé sur le toit pour protéger l'atrium et éviter que les stucs continuent à s'évacuer, et ce qui provoque après les inondations à l'intérieur de la bourse. Au PPI, nous avions mis la réfection de la Saint-Antoine Croisat, pardon, Ambroise Croisat, et avec, sauf qu'on a, il y a eu de l'amiante, donc du coup le budget va passer dans le désamiantage dans un premier temps.
Donc le PPI, c'est le plan
le plan pluriannuel d'investissement, oui.
Très bien.
Donc, plan pluriannuel d'investissement qui représente à peu près 500 millions, 600 millions sur un mandat, hein, c'est un peu plus de 100 millions d'euros par an. Et donc la salle Ambroise Croisat va être désamiantée. Et dans le hall, il y a des risques aussi d'amiante, semble-t-il. Donc, on a ce sujet-là aussi complexe, hein, de mise en sécurité autour de ces sujets. Donc, c'est pas simple parce qu'en plus, c'est effectivement un lieu prestigieux sur lequel nous sommes particulièrement attachés, qui est classé. Et donc, ça peut pas se faire rapidement et on en est les premiers désolés.
Est-ce qu'on peut avoir quand même une petite idée du calendrier dans le journal Sud-Ouest? Je crois qu'il était question de 2 ans au moins de travaux pour la salle Ambroise Croisat. C'est toujours cet ordre-là de grandeur?
Tout à fait.
Stéphane Aubé, ouais, sur ces questions-là, je vous comprenez, j'imagine bien cette question-là du temps nécessaire à conclure ces marchés, etc., pour que ça avance. Ça reste un signe positif pour vous?
Nous, la réunion de hier à l'initiative de la CGT, on l'entend et on l'analyse comme un pas positif. Un pas. À avec encore une fois une grosse attente de voir cette visibilité des travaux, voir comment également on peut raccourcir les délais administratifs, et la DRAC d'ailleurs a expliqué que dans le calendrier qui était envisagé, il y avait peut-être des délais qui avaient été identifiés comme étant relativement longs, et ces délais pourraient a priori être raccourcis, et également voir comment on pourrait d'ores et déjà travailler à l'après. Nous, ce qu'on a capté, ce qu'on a entendu hier, c'est un gros intérêt de la part de l'État à travers la DRAC, qui a bien identifié que ce patrimoine, ce bâtiment qui était classé bâtiment historique, avait un vrai intérêt patrimonial. Et également qu'il fallait être en capacité, au-delà de l'intérêt patrimonial, de le faire revivre et de le réhabiliter. Donc la mise en sécurité telle qu'elle est établie et envisagée par la mairie, c'est un premier pas, positif évidemment, qu'il va falloir accompagner par d'autres pas, et notamment pour partager un vrai projet culturel, un projet politique qui permet de travailler cette question d'émancipation à travers la culture, l'art, le savoir. Et nous, sur ce projet-là, qu'on veut absolument arriver à se mettre d'accord, et je pense qu'on partage ce projet, on peut partager ce projet. Alors pour justement, pouvoir faire que demain, cette bourse du travail, au-delà d'être mise en sécurité, elle revive. Et donc ça demandera aussi à continuer à se rencontrer le plus souvent possible pour qu'on puisse donner des perspectives d'ouverture, notamment au public.
Alors justement, dans les échanges là, qui ont lieu notamment avec la conférence de presse et avec les différents articles la semaine dernière, la CGT vous parlait de partager la partie culturelle de la Bourse du Travail avec tous les acteurs institutionnels du département, voire de la région. Et dans Sud-Ouest, Delphine Jamais, vous parlez de la question de mutualiser les locaux de la Bourse. Est-ce que, à travers ces deux idées-là, vous êtes sur le même... Les mêmes choses précises? Qu'est-ce que vous mettez derrière ces différents éléments-là? Peut-être Delphine Jamais d'abord, quand vous avancez cette question de la mutualisation, est-ce que c'est cette partie culturelle d'ouverture, d'animation au public, ou est-ce que vous envisagez d'autres, vous imaginez d'autres choses?
Mais pour l'instant, tout est imaginable en fait. C'est ce que je pense qu'il faut. Il ne faut pas se fermer à d'autres choses. Et ça peut, c'est pas forcément que de la culture. Ça peut être des colloques, ça peut être plein de choses qui ne sont pas culturelles, puisqu'effectivement, il y a des lieux. Il y a l'amphithéâtre, il y a la salle des congrès, vous avez la bibliothèque en haut, vous avez énormément d'espace dans cette bourse du travail qui pourrait être exploitable et pas forcément culturel. Donc c'est là, je pense que tout doit être mis sur la table à un moment donné, et c'est bien ce qu'on cherche à faire. Et très clairement, dans le cadre du prochain PPI de la ville de Bordeaux, hein, c'est tous les 6 ans que ça se fait, et au fur et à mesure, on a des critères pour dire ce qui va rentrer dans le PPI. Et aujourd'hui, la ville de Bordeaux a pratiquement plus de 500 bâtiments, du patrimoine en mauvais état. Je tiens à le rappeler, c'est pas que la bourse du travail, c'est l'ensemble du patrimoine de la ville qui est en mauvais état. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on priorise ce qu'on doit faire. Donc pour ça, effectivement, il faut faire des programmes, de la programmation. Et dans le cadre de cette programmation, il y a des études à mener avec les occupants actuels et qui resteront occupants, bien entendu. Et derrière, les possibilités, et en fonction de ça, le programme de travaux se fait, et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une vraie enveloppe pour savoir ce qu'on va y faire dedans. Typiquement, un exemple, la salle Ambroise Croizat, elle pourra coûter entre 2 millions ou 10 millions en fonction de ce qu'on met comme sono, par exemple. Donc c'est pas la même chose. Donc est-ce que c'est une salle des fêtes qu'on en fait, ou en une vraie salle de spectacle? Voilà, donc tout ça, il faut le définir, sauf que la ville n'a pas des finances extensibles, si je peux me permettre. Nous avons besoin de lieux culturels, notamment dans d'autres secteur de la ville, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez la Bastide, vous avez Euro-Atlantique, vous avez des quartiers entiers qui sont en train de se construire avec peu de services publics et où on a besoin d'amener du service public. Donc du coup, nous on doit prioriser tout cela en fonction des besoins de la ville, et donc c'est là que c'est ce qui va être discuté ensuite là, bien entendu, parce que quand on fait une étude de programmation, tous les occupants et toutes les parties prenantes sont interrogés pour voir ce qu'on peut faire. Donc ça va prendre un peu de temps avant de pouvoir le poser.
Je vais demander à Stéphane Aubé ce qu'ils imaginent à la CGT, mais d'abord, Delphine Jamais, vous parlez de critères. Je comprends que vous vous engagiez pas sur des éléments, mais on comprend aussi que ça peut faire peur quand vous dites tout est sur la table, tout est possible. J'imagine que ça puisse faire peur à Stéphane Aubé. Delphine Jamais, comment est-ce qu'on peut préciser un peu c'est quoi ces critères dont vous parler, et qu'est-ce qui pourrait être imaginable?
Non, mais quand je dis que tout est possible, c'est bien entendu. Enfin, il y a une chose qui est incontournable. C'est ce qu'on essaye, par exemple, de faire à Fieffé. À Fieffé, on a l'ASTI qui est, on a la mission locale. On refait un projet autour de Fieffé avec, en incontournable, le positionnement de l'ASTI et de la mission locale. Donc, ce qui va être à l'intérieur sera forcément en adéquation avec les projets de l'ASTI et de la mission locale. Là, c'est exactement la même chose. En plus, dans cet endroit encore plus symbolique, etc. Donc, on a la CGT qui est dans ses locaux. Et donc, on fera un projet avec la CGT, mais aussi avec ce que veut la ville. Et pour l'instant, ce que veut la ville, on ne l'a pas prédéfini, en fait, si vous voulez. C'est des discussions que nous devons avoir. Donc, quand je dis que tout est possible, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir une partie culturelle, mais il pourrait y avoir aussi centre des congrès. C'est un centre des congrès, donc avec je dis des idées comme ça, hein, c'est pas ce qui est arrêté. Mais voilà, il peut y avoir d'autres personnes qui viennent, ça sera une animation forcément qui sera gérée différemment en fait. Voilà, mais
tout en restant, j'imagine, dans la thématique. Tout en restant, j'imagine, dans la thématique, on va pas faire un congrès du MEDEF à la Bourse du Travail.
Non, bien entendu.
Stéphane Aubé,
pour raison gardée.
Stéphane Aubé, qu'est-ce que vous, en fait, à la CGT, vous imaginez quand vous avez parlé de voilà de cette ouverture, de cette vie culturelle? Qu'est-ce que vous voyez derrière? Je signale juste qu'il va être 13h et qu'on déborde un petit peu, comme on a la chance de vous avoir pour continuer ce débat. Stéphane Aubé.
Oui, alors, façon très rapide. Nous.